Après 60 ans de recherche et plusieurs hivers technologiques, l'intelligence artificielle vient de connaître des progrès sans précédent. Lors de ces 10 dernières années, trois facteurs convergents ont propulsé l'intelligence artificielle au cœur de nos vies privées et professionnelles. 1. La numérisation massive des connaissances. 2. La progression exponentielle de la puissance de calcul des ordinateurs. Et 3. L'invention de l'apprentissage automatique. Comme nous l'avons vu lors des épisodes précédents, c'est ChatGPT qui a occupé le devant de la scène ces derniers mois, laissant les prétendants loin derrière, dans l'obscurité des coulisses. Développé par la société OpenAI, ce chatbot nourri avec la quasi-totalité des connaissances humaines a poussé tous les acteurs de la tech à bomber le torse et à sortir du bois, plus ou moins adroitement. Cet affrontement commercial a en effet créé de gigantesques mouvements sur les marchés financiers, faisant perdre près d'une centaine de milliards de dollars à Google et en faisant gagner à peu près autant à Microsoft. En investissant massivement dans OpenAI, Microsoft a fait d'une pierre deux coups, un retour sur le devant de la scène technologique et un positionnement de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cerise sur le gâteau, en mettant ChatGPT dans les mains du grand public, OpenAI a démocratisé l'usage de l'intelligence artificielle et a préparé les esprits à une introduction plus large de l'IA dans notre quotidien et dans la société. Parallèlement, une myriade d'entrepreneurs a lancé de nouveaux business et de nouveaux produits en s'appuyant sur les technologies les plus récentes. En tribune, les experts sont fébriles et oscillent entre l'enthousiasme et la crainte d'avoir créé une puissance qui pourrait entraîner notre perte. Certains ont même demandé un moratoire pour contenir le développement et la mise à disposition d'applications potentiellement explosives. Au balcon, les grandes puissances assistent à cette grande foire d'empoigne, chacune à leur manière, mais non sans arrière-pensée politique et stratégique. La Chine autoritaire dépense des milliards en espérant mettre la main sur un outil de surveillance encore plus puissant. Les États-Unis déboursent eux aussi des sommes considérables en comptant sur ses champions nationaux pour remporter la mise. Et l'Europe, de son côté, est à la traîne en termes de budget et tente laborieusement d'imposer une régulation à la hauteur de l'enjeu sans pouvoir compter sur des entreprises leaders sur le marché. Dans ce troisième et dernier épisode de ce podcast, je vous propose une plongée dans les enjeux d'une bataille mondiale entre géants commerciaux et étatiques. Je m'appelle Nicolas Becquet, bienvenue dans En clair, le podcast de l'Écho qui vous donne les clés pour comprendre une tendance ou une innovation qui pourrait changer la donne. Un podcast réalisé avec le soutien d'EY. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Mathieu, journaliste à l'Écho. Bonjour Benoît.
Bonjour Nicolas.
Ensemble, nous allons parler de la bataille que se livrent d'un côté les Big Tech, partis à la conquête d'un marché estimé à 15,7 trillions de dollars d'ici 2030, et de l'autre côté, les États et les grandes puissances qui tentent de se positionner pour à la fois réguler le développement de l'intelligence artificielle, mais aussi pour en tirer un avantage stratégique sur le plan économique et politique. Alors, pour ce podcast, Benoît, vous avez interrogé une dizaine de spécialistes de l'intelligence artificielle et des relations internationales. Est-ce qu'on peut parler d'une technologie de rupture ?
Ça dépend du regard que l'on porte sur la question. Si on se place du point de vue du chercheur, il est difficile de parler d'une rupture fondamentale parce que l'intelligence artificielle est une technique qui est aussi vieille que l'informatique, qui est faite de progression continue. Et la technologie qui est derrière ces modèles qui nous fascinent actuellement, donc les large language models, quelque part, elle est connue depuis longtemps. Par contre, si on se place du point de vue du grand public, là, on peut éventuellement parler de rupture. De rupture à deux égards. Je dirais qu'il y a d'abord un bond qualitatif, c'est-à-dire que ces intelligences artificielles sont nettement plus performantes que par le passé. D'abord parce que les modèles sont extrêmement larges, ils intègrent des milliards de paramètres, ils sont entraînés durant très très longtemps et à extrêmement grande échelle, sur une quantité presque astronomique de données. Et par ailleurs, ils savent garder en mémoire le contexte de la conversation, ce qui leur permet de répondre de manière plus pertinente. Donc ça, c'est la première rupture, je dirais. La seconde, c'est la mise à disposition du grand public. D'habitude, l'intelligence artificielle, elle est réservée aux laboratoires, aux chercheurs. Et ici, on a une entreprise, OpenAI, qui a mis son outil ChatGPT entre les mains du grand public, ce qui fait que tout le monde a pu chipoter, se l'approprier.
Vous avez parlé d'un bond qualitatif. On en a déjà parlé lors des deux premiers épisodes, mais il est bon de rappeler que les progrès fulgurants de l'IA ces 10 dernières années sont dus à la convergence de 3 facteurs déterminants. Des masses de données facilement accessibles et exploitables. En gros, on a l'ensemble des connaissances humaines ou presque qui ont été numérisées. Des progrès techniques fulgurants dans la puissance de calcul des ordinateurs et la capacité de stockage. Et la création des modèles d'apprentissage automatique dont vous venez de parler. Ce qui permet aujourd'hui d'assister à une adoption sans précédent de l'IA par le grand public et dans tous les secteurs d'activité.
Oui, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, on assiste à une multiplication des applications commerciales possibles. De plus en plus de API, donc en quelque sorte des dictionnaires qui permettent de dialoguer avec ces modèles. De plus en plus d'API voient le jour et il est possible de coupler ces modèles d'intelligence artificielle à des outils déjà existants. Par ailleurs, ChatGPT n'est pas le seul produit d'OpenAI. La société fournit toute une série d'outils tout faits qui ont comme moteur ChatGPT. Qui permettent par exemple la reconnaissance automatique de la parole, l'analyse de texte, le résumé de texte. Un outil va servir d'assistant virtuel. On voit d'autres intelligences artificielles génératives comme DALL-E pour les images ou d'autres pour les compositions musicales. Il y a MuseNet, il y a Google qui vient de lancer la sienne. Donc il y a énormément d'outils qui sont possibles et on voit en fait quelque part, on est en quelque sorte entré dans une logique industrielle presque.
Donc on voit que c'est un joyeux bouillonnement et dans ce bouillonnement, on a énormément entendu parler de ChatGPT développé par OpenAI, vous l'avez dit, mais ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg de l'intelligence artificielle. Benoît, si on doit résumer, quels sont les principaux acteurs dans la course à l'IA aujourd'hui ?
Rappelons d'abord que le secteur informatique vit une vague de consolidation très importante depuis environ une vingtaine d'années. On connaît l'acronyme, il y a Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, on les appelle les GAFAM, qui à elles seules contrôlent quasiment toutes les couches de l'écosystème numérique. On va des données aux interfaces utilisateurs, en passant par les outils, la puissance de calcul et les connexions physiques. Dès lors, il n'est pas étonnant de retrouver ces mêmes GAFAM en première ligne dans la bataille de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. On parle beaucoup de OpenAI, mais OpenAI bénéficie de la puissance de feu de Microsoft, qui a investi des milliards de dollars. En face, on retrouve évidemment Google, par exemple, ou Amazon, on en a parlé. Et c'est d'autant moins étonnant de voir ces GAFAM en première ligne que le développement et l'entraînement de ces modèles nécessitent une infrastructure dingue. Énormément de données, une puissance de calcul extrêmement importante, ça vaut des millions de dollars, et qui d'autre que des géants qui disposent déjà de données impressionnantes, qui d'autre que des géants comme ça peuvent y parvenir ? Quelque part, on nous a résumé ça de la sorte que pour entraîner ChatGPT, c'est presque comme si on avait téléchargé tout Internet pour le faire travailler dessus.
Mais il y a aussi du côté asiatique.
L'autre poids lourd de l'intelligence artificielle, à côté des États-Unis, on retrouve la Chine. Et la Chine qui a ses propres GAFAM, sauf qu'on dit BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.
Malgré déjà cette liste assez longue, en fait, il y a encore des acteurs importants qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent sur l'intelligence artificielle.
Bien sûr, à côté des géants du net, on peut citer certains équipementiers. Et le premier d'entre eux, ce serait Nvidia, dont les puces graphiques s'arrachent littéralement parce que ce sont elles qui permettent d'entraîner ces modèles. Et donc, on a vu ces 6 derniers mois, les GAFAM passer des commandes colossales à Nvidia, on parle de dizaines de milliers de puces.
Alors pour décrire le marché de l'intelligence artificielle, on pourrait schématiquement le diviser en 2 grandes parties. Le B2C, c'est-à-dire le marché qui cible le grand public, avec par exemple les moteurs de recherche ou la publicité. Et le B2B, le business to business, avec la vente de solutions clés en main aux entreprises. Par exemple, la mise à disposition de solutions cloud pour le déploiement de services boostés à l'intelligence artificielle. Benoît, commençons par la facette qui concerne les consommateurs et les particuliers.
Pour les particuliers, la question centrale, c'est la question de l'adoption de la technologie par le grand public. Et est-ce que ces large language models vont changer la manière dont les gens recherchent des informations sur Internet? En gros, est-ce qu'on va abandonner la page de moteur de recherche Google pour aller poser directement nos questions à ChatGPT, par exemple? Autrement dit, est-ce que l'intelligence artificielle va devenir une sorte d'interface de couche de service supplémentaire entre les utilisateurs et tous les services qu'on retrouve derrière? Est-ce que ça va devenir une sorte de porte d'entrée unique pour les gens sur Internet?
Et donc ça, il y a des enjeux colossaux qui se traduisent sur les cours de bourse, par exemple.
Effectivement, c'est ce qui explique la nervosité des marchés. On a vu que le cours de Microsoft a bondi lorsque le géant a annoncé avoir réinvesti 10 milliards de dollars dans OpenAI. De la même manière, le cours de Google, lui, s'est effondré. Ils ont perdu en un coup environ 100 milliards de dollars en capitalisation. Lorsque, au cours de la présentation de Bard, qui est le concurrent de ChatGPT, à une question posée sur une image provenant de l'espace, l'intelligence artificielle a attribué cette image au mauvais satellite spatial.
Alors maintenant, on vient de parler de l'aspect consommateur direct. Évoquons maintenant l'aspect B2B, business to business, qui concerne la vente de services aux entreprises. Pouvez-vous nous expliquer comment les big tech comptent s'y prendre ?
L'intention des géants de la tech, c'est quelque part de fournir des solutions clés en main pour que les entreprises puissent développer, utiliser l'intelligence artificielle avec les outils et les services que ces entreprises mettent à leur disposition. Parce qu'on on l'a déjà dit, développer une intelligence artificielle et l'entraîner, ça prend énormément de temps, ça coûte vraiment très très cher. On a vu un chiffre circuler, c'est 700 000 dollars, c'est ce que coûterait l'entretien de ChatGPT par jour. C'est clairement pas à la portée de toutes les bourses et en tout cas pas des startups. Ce qui, la preuve d'ailleurs est que justement OpenAI a finalement décidé de s'adosser à Microsoft pour pouvoir développer son modèle.
Donc si je comprends bien, il s'agit de mettre à disposition, un, de la puissance de calcul, aussi de faciliter la création d'une chaîne d'assemblage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un processus qui regroupe toutes les étapes nécessaires pour créer et entraîner une IA. On appelle ça, je crois, une IA Factory.
Mais c'est exactement ça, Nicolas. L'idée, c'est de fournir, comme vous dites, une sorte de chaîne d'assemblage pour la création, l'entraînement et aussi la lecture des résultats fournis par l'intelligence artificielle. Alors, elle s'appelle Azure Machine Learning, Amazon Personalize. En fait, ce sont des usines qui fournissent une série de services, de briques, si on peut dire, qui permettent de bâtir son système. Alors, ça peut aller de la préparation, la transformation des données qu'on va donner en nourriture au modèle, un studio de paramétrage pour un petit peu justement paramétrer le modèle, un système qui permet de gérer les différentes versions du modèle, on parle de mise en production, d'analyse des résultats. Ce n'est pas tout, puisque cette entreprise se met à intégrer ces modèles d'intelligence artificielle à leurs outils classiques. On pense à Bing, qu'on a cité, mais aussi à la suite logicielle Office, que tout le monde connaît. Donc, au risque un petit peu de la caricature, ces big tech ont l'ambition de devenir un peu le Thomas et Piron de l'intelligence artificielle.
Donc, pour citer quelques applications concrètes, on peut citer le résumé automatique d'appels téléphoniques, l'extraction d'informations dans les documents scannés, l'analyse des plaintes récurrentes ou la catégorisation de produits sur un site de e-commerce. L'intelligence artificielle peut être utile pour ce genre de tâches. Et on voit aussi certains assureurs qui travaillent à la mise en place de chatbots capables de répondre de façon personnalisée à chaque client en prenant en compte leur situation vraiment spécifique et les clauses de leur contrat. Mais Benoît, introduire l'IA dans la relation client, c'est risqué.
Oui, parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut laisser, oui ou non, l'intelligence artificielle en relation directe avec le client, au risque que celle-ci, à un moment donné, se trompe, voire même hallucine. Parce que même s'il est possible de paramétrer l'intelligence artificielle en déterminant normalement son degré de créativité, voire la présence éventuellement de traces d'humour, on n'est jamais à l'abri d'un plantage. Et évidemment, ce plantage peut avoir des conséquences bien plus importante si on est dans des domaines sensibles comme la finance ou la santé. Une manière quelque part de contourner le problème, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle en relation directe avec le client dans un cadre bien défini. Par exemple, une société a fourni à ChatGPT l'ensemble des règles de jeu de société et le joueur qui a une question peut s'adresser directement à ChatGPT qui va aller puiser dans ce monde fini et très bien maîtrisé la réponse qu'il va fournir.
Donc il y a une foule de possibilités, mais encore faut-il que chaque entreprise évalue ses besoins et la pertinence de l'intelligence artificielle pour son business, et c'est pas toujours gagné.
De nouveau, il y a moyen de se montrer extrêmement enthousiaste ou un petit peu moins. Pour certains, il n'y a aucun doute, l'intelligence artificielle, c'est en train de s'en passer de devenir un immense game changer. On va assister à une naissance, une nouvelle génération de technologies qui va devenir le moteur de beaucoup de processus en entreprise. Donc il y aura celles qui vont monter à bord du train, celles qui vont rester à quai, et on verra de nouveaux acteurs émerger.
Et l'objectif pour toutes ces sociétés, en fait, ce sont les avantages compétitifs et la productivité.
Effectivement, des coûts en baisse, des recettes en hausse. Pour la première fois, et on le voit, certaines études le chiffrent, on commence à enregistrer des gains de productivité qui vont au-delà de ce qui est considéré comme marginal. Alors attention quand même, nuance, pour l'instant, ça s'enregistre sur des cas particuliers, dans des métiers particuliers. Ce n'est pas pour autant que c'est généralisable à toute l'économie. Même en Belgique, par exemple, on a déjà un marché de l'intelligence artificielle qui est relativement dynamique, des projets se font, pour l'instant, encore essentiellement au nord du pays.
Imaginons qu'une entreprise a réussi à identifier une plus-value grâce à l'IA, qu'elle a trouvé un partenaire pour mettre en place les solutions techniques. Ce n'est pas encore terminé, il faut encore étudier les risques induits par cette technologie, et ces risques y sont nombreux.
De manière un petit peu ironique, on pourrait dire qu'un premier risque avec l'intelligence artificielle, c'est que l'essayer, c'est l'adopter. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut assez rapidement l'intégrer à certains processus et avoir une certaine impression de maîtrise. Or, une fois qu'on a mis le doigt dedans, une fois qu'on a commencé un petit peu à chipoter avec ça, c'est comme pour beaucoup de choses, il est assez difficile de faire marche arrière. La question qui se pose alors, mais que se passe-t-il si jamais OpenAI ou une autre entreprise modifie ses conditions de travail pour l'outil, revoit fortement ses tarifs à la hausse, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une dépendance? Alors, vous me direz que cette dépendance logicielle, elle existe
elle est pas nouvelle,
depuis longtemps déjà, que ce soit avec SAP ou la suite Office dont on a déjà parlé, c'est vrai. La différence, c'est que ce soit SAP plus ou moins, mais en tout cas un Word ou un Excel, globalement, on sait ce que ça fait. L'intelligence artificielle, par contre, c'est une véritable boîte noire pour celui qui l'utilise, et d'ailleurs à tel point qu'on n'est pas toujours capable de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle fournit certaines réponses. Et donc ça peut avoir un impact assez important, d'autant plus si on travaille dans des secteurs un petit peu cruciaux, comme la finance, les transports, la santé.
Et il y a encore d'autres dangers, notamment sur la confidentialité des données.
Voilà, exactement. Le plus grand danger, celui qu'on a le plus identifié, c'est celui qui entoure la confidentialité des données, ou plutôt de la non-confidentialité, parce que quelque part, fournir des données à ChatGPT en lui posant une simple question, ça revient directement à les envoyer à une entreprise américaine qui en fera ce que bon lui semble. On a vu par ailleurs, par exemple, une boîte comme Samsung qui a temporairement interdit à certains de ses employés l'usage de ChatGPT. C'est un avertissement qui pèse d'autant plus lorsqu'on travaille avec des données considérées comme sensibles, personnelles, confidentielles, dans la santé par exemple. On voit d'ailleurs que certaines entreprises essaye de mettre en place des solutions plus souveraines. On voit que Proximus a décidé de développer un cloud souverain qui servirait à abriter les données sensibles de l'État belge. On sait aussi qu'il existe, même s'ils sont nettement moins connus, il existe des concurrents européens à ChatGPT. Ils sont un petit peu moins dans la lumière, peut-être un petit peu en retard. Mais il y a un exemple français, par exemple, développé par LightOn. Donc certains conseillent de voir aussi ce qui va se développer au niveau de la communauté open source qui va se développer au niveau des concurrents européens avant de faire un choix et de se ruer et quelque part de se lier à une entreprise américaine.
Oui, et donc dans la longue liste des risques qu'il faut prendre en compte, on peut aussi évoquer une autre facette qui ne dépend pas des entreprises elles-mêmes directement, mais qui pourrait leur porter préjudice. Il s'agit de l'explosion des tentatives de piratage informatique. On estime, c'est pour donner un chiffre, le marché de la cybercriminalité à 6 000 milliards de dollars. Et c'est l'une des conséquences de la démocratisation de l'intelligence artificielle. Il existe des programmes clés en main et des modèles open source qui permettent à chacun de s'approprier cette technologie pour le meilleur et pour le pire. Et du côté obscur de la force, si on peut dire, les experts estiment que les attaques vont non seulement se multiplier, mais qu'elles vont aussi être plus sophistiquées et donc aussi plus dangereuses. avec deux conséquences principales pour les entreprises, la vulnérabilité de leurs services liés à l'IA, notamment par l'empoisonnement des bases de données qui nourrissent les machines. On estime que il suffit de contaminer 0,01% d'une base de données pour détraquer l'ensemble du système. Cela revient à empoisonner une app phréatique. Et de l'autre côté, les attaques, plus classiques, mais plus fortes et plus nombreuses sur les systèmes informatiques qui permettent de faire fonctionner les entreprises. Passons maintenant à un autre grand défi, celui de la régulation et de l'encadrement des technologies. On a parlé des risques liés à l'IA, le manque de transparence des systèmes qui ne permettent pas d'expliquer les raisons d'une décision, le risque d'attachement aux assistants personnels à qui on pourrait prêter des émotions ou un caractère humain. Il y a aussi la menace des biais avec la reproduction d'inégalités ou de discriminations, sans compter les conséquences liées aux décisions dans le domaine de la santé ou de la justice. Bref, l'une des pistes, c'est d'aller vers une forme d'autorisation de mise sur le marché, comme on le fait déjà pour les médicaments ou les produits chimiques. Une autorisation qui serait accompagné d'une certification garantissant le respect de certaines normes de transparence, de responsabilité ou en lien tout simplement avec l'éthique.
Alors, la régulation est effectivement extrêmement importante. Il y a beaucoup d'acteurs qui soulignent la nécessité de définir des garde-fous, d'établir un cadre. Même aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent et qui invitent à suivre l'exemple européen et à entamer un travail de réflexion en la matière. Surtout que l'intelligence artificielle va s'immiscer dans des domaines extrêmement sensibles, tels que la santé, l'éducation, la sécurité, mais aussi l'armement. On le voit d'ailleurs que les big boss de la tech américaine viennent d'être convoqués à la Maison Blanche afin de discuter du devoir éthique et légal de s'assurer de la sécurité des produits qui sont mis sur le marché. Voilà, réguler est une nécessité. Cela étant, l'exercice n'est pas sans risque, parce qu'il n'est pas évident de trouver l'équilibre entre d'un côté la protection des données et de la vie privée, et de l'autre côté, finalement, de soutenir la liberté d'entreprendre et ne pas tuer toute innovation dans l'œuf.
Donc pour éviter que chaque pays légifère dans son coin, l'Europe a commencé la réflexion pour une régulation de l'IA. Elle l'a commencé en 2017. Où en est-on aujourd'hui ?
Effectivement, l'Union européenne travaille sur l'AI Act, qui est un projet de réglementation qui vise à la fois à encadrer l'intelligence artificielle afin de la rendre digne de confiance, éthique, durable, inclusive, tout ça, tout à la fois en encourageant son développement en Europe. Alors ça a pris énormément de temps, il semble qu'on soit dans la phase d'atterrissage puisqu'il est question d'aboutir en 2023. Au cœur du projet, qu'est-ce qu'on trouve ? Une série de règles qui seront imposées aux applications qui sont jugées à haut risque. Et donc ça concerne toute une série de domaines comme les infrastructures critiques, l'éducation, les ressources humaines, le maintien de l'ordre ou la gestion des migrations. Parmi ces obligations, on voit notamment le contrôle humain sur la machine, établir une documentation technique, mettre en place un système de gestion du risque. Autre règle prévue, c'est contraindre les applications qui génèrent des images à préciser que ces images ont été générées de manière artificielle. Et au cœur, évidemment, de cette future réglementation, on retrouve ces fameux large language models à la sauce ChatGPT. La question est, faut-il leur appliquer un cadre plus strict, notamment pour protéger contre les contenus illégaux, révéler quelles sont les données qui sont protégées par les droits d'auteur et qui ont été utilisées pour le développement et l'entraînement de l'algorithme.
Mais il est également question de définir une série d'interdictions pures et simples.
Voilà, alors évidemment, l'Europe n'a pas envie d'entendre parler d'applications qui seraient contraires à ses valeurs, comme les systèmes de notation citoyenne ou de surveillance de masse qui sont utilisés en Chine. Il est aussi question de prohiber tout ce qui est système de reconnaissance des émotions ou la récolte en masse de photos sur Internet pour entraîner les fameux algorithmes.
Et on peut voir des stratégies de développement et des moyens très différents entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. On a beaucoup entendu cette phrase « Quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois copient et les Européens la régulent ». Est-ce que cette vision correspond vraiment à la réalité ?
Alors, en ce qui concerne la Chine, on a sans doute dépassé ce stade. Ces ambitions sont claires, elles ont été formulées dès 2017. L'idée est de devenir le numéro un mondial de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. Évidemment, une ambition qui se double de moyens qui sont relativement importants. On estime qu'environ déjà 70 milliards de dollars qui auraient été investis dans le secteur. Ce qui lui permettra notamment de vendre sa technologie à une série de pays et de les rendre dépendants. Et on connaît connaît aussi un petit peu l'usage que pourrait faire la Chine des données et de l'intelligence artificielle, notamment en matière de contrôle des populations.
Et de leur côté, les États-Unis, eux non plus, n'entendent pas perdre leur leadership.
Alors, les États-Unis ont pris conscience de cette menace chinoise, si on peut dire, en tout cas de leur point de vue, sous le président Trump, et évidemment, les efforts se poursuivent sous la présidence de Biden. Cela passe par des investissements qui sont massifs et qui visent à garder l'avance dont ils disposent. On voit qu'en 2022, le Congrès a libéré 52 milliards de dollars afin de relancer la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Et de l'autre côté, la stratégie américaine consiste également à mettre des bâtons dans les roues de la Chine et de l'empêcher d'arriver à ses fins. Ça passe par une série de lois, par exemple, afin d'empêcher l'accès à la Chine aux semi-conducteurs et de faire pression sur les alliés afin que ceux-ci n'utilisent pas les technologies chinoises, que ce soit pour les câbles acheminant les données ou pour le développement de la 5G. Les États-Unis ont aussi réussi à convaincre l'entreprise néerlandaise ASML, qui est le grand leader mondial de fabrication de machines qui permettent de graver des puces, de bloquer l'exportation vers la Chine.
Face à ces deux géants que sont la Chine et les États-Unis, comment se positionne l'Europe ?
Alors, l'Europe dit avoir de grandes ambitions. Seulement, elle a des moyens plus limités. Le budget pour la période 2021-2027, c'est environ 7 milliards d'argent public. Ce qui fait dire aux mauvaises langues que l'Europe est évidemment à la traîne et que la seule chose qu'on peut faire quand on est un petit peu à la traîne, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de réguler. De manière générale, il est vrai que l'Europe a un certain retard technologique et que la guerre de la technologie, la course, se joue souvent entre les États-Unis et la Chine. On peut sortir de l'intelligence artificielle et voir que ça se vérifie également dans le business des voitures électriques.
Mais Benoît, l'Europe n'est pas pour autant dépourvue d'atouts.
C'est ce que tous les chercheurs me disent, on a des idées, on a des bons ingénieurs, on a d'excellentes universités, on est très bien placé en recherche. Le souci avec la recherche, qui mène la recherche, c'est les universités et les big tech. Et la stratégie des big tech américaines, c'est d'offrir des conditions de rêve aux chercheurs. Donc en Europe, on fait face à un important brain drain, une véritable fuite des cerveaux, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire pour les chercheurs de s'exiler dans la Silicon Valley ou ailleurs. La plupart des géants du net ont des bureaux dans des labos à Londres, à Paris ou à Zurich. Par ailleurs, c'est vrai que si on se compare aux États-Unis, en Europe, il nous manque les données, il nous manque une certaine infrastructure et quelque part tout un écosystème qui est déjà en place. Ce n'est pas le seul handicap de l'Union européenne. De manière générale, et quitte à caricaturer un peu, en Europe, on a du mal à passer au produit, à l'entreprise, à la grande échelle, à la rentabilité. Et ça, c'est dû à une conjonction de facteurs. On me pointe d'un côté le manque de capital risque, mais également la fragmentation du marché. Le marché américain est très vaste et très homogène. En Europe, la principale difficulté, ce sont les différences de langue, parce que derrière les large language models, on retrouve essentiellement des statisticiens et des linguistes. Donc la question de la langue a énormément d'importance. Par ailleurs, l'Union européenne a tendance à se montrer tatillonne en matière de concurrence, a tendance à vraiment défendre les petits et à freiner l'émergence de géants européens dont on aurait pourtant besoin en la matière. Ensuite, il y a aussi parfois les pays qui se tirent eux-mêmes un peu dans les pattes. 27 pays, c'est beaucoup, avec chaque fois une volonté nationale de tirer son épingle du jeu.
Ce sera ma dernière question, mais si je vous comprends bien, il faudrait encore plus d'Europe.
Tous les interlocuteurs avec qui on a discuté étaient plus ou moins raccord sur ce point. La solution viendra sans doute de davantage d'union. De la même manière que la guerre en Ukraine a réveillé l'Europe de la défense, beaucoup suggèrent de mutualiser les investissements dans l'intelligence artificielle, un petit peu à la manière de ce qui a été fait dans le domaine spatial avec Ariane ou l'aviation avec Airbus, de manière à pouvoir aligner des géants européens. Et donc quelque part que la seule manière de ne pas constater avoir une longueur de retard dans la guerre, c'est de se montrer unis et d'investir ensemble.
Merci beaucoup Benoît Mathieu pour vos éclairages et pour vos explications.
Merci Nicolas de m'avoir reçu pour vos questions.
Lors de ces trois épisodes, nous avons essayé de baliser les grands enjeux de l'intelligence artificielle et les changements attendus et parfois redoutés qui auront un impact dans notre vie personnelle, dans le monde du travail et plus généralement dans le monde de l'entreprise. Vous pourrez retrouver une série de liens dans les notes d'épisode vers des articles pour approfondir le sujet. Vous pourrez également trouver une liste des autres podcasts proposés par l'Écho, dont Le Brief, disponible chaque jour à partir de 7h. J'espère que cette série aura été éclairante et utile pour vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, mais aussi à en parler autour de vous. Vous venez d'écouter En clair, le podcast de l'Écho qui vous donne les clés pour comprendre une tendance ou une innovation qui pourrait changer la donne.
L'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative que l'on voit de plus en plus populaire ces derniers mois, va réellement révolutionner la manière dont les entreprises vont développer leurs activités.
Patrice Latine est docteur en intelligence artificielle. Il est aussi partner data et intelligence artificielle pour l'organisation EY.
On le voit déjà aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une réalité. Des exemples concrets et inspirants dans le domaine des services financiers que je connais bien. Donc, il y a des modèles de détection de fraude, il y a le combat contre la criminalité financière, il y a sur la partie client la manière d'interagir, de converser avec un client, la manière de comprendre si le client va quitter la société, la banque, l'assurance par exemple, va gérer son crédit, quel investissement va devoir être proposé par le gestionnaire de fonds. Tout ça peut être aidé avec de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Demain, les applications vont réellement exploser. Sous contrôle d'un certain nombre de règles régulatoires, pour la protection de la vie privée, pour la gestion des risques au niveau de l'intelligence artificielle. Mais clairement, on va avoir des applications qui vont être capables de, quelque part, substituer l'humain par une certaine forme d'intelligence artificielle. Dans une perspective surtout d'augmentation des capacités des employés, des collaborateurs, des conseillers, ou une augmentation des capacités d'offrir des services aux consommateurs, à l'investisseur, aux clients de la banque ou de l'assurance. L'évolution des métiers est évidemment observée également, et les collaborateurs ont la possibilité du coup de se concentrer sur des analyses, sur une valeur ajoutée augmentée de leur métier. Alors, de manière positive, par exemple, on peut imaginer que quand le conseiller bancaire, par exemple, ne sera pas présent, il n'est pas présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, une intelligence artificielle se substituera à ce collaborateur pour générer automatiquement, par exemple, une analyse de la performance du portefeuille du client, pour pouvoir répondre à des questions assez précises sur son crédit ou sur son portefeuille, sur la manière dont le sinistre est en train d'être géré, sur la manière dont la police d'assurance peut intervenir. Et donc là, on est vraiment dans la partie conversationnelle où les choses iront beaucoup plus loin sur la capacité à générer automatiquement du contenu, générer automatiquement un paiement. Mais attention, dans la manière dont cette intelligence artificielle sera en interaction avec le client, l'humain banquier ou assurantiel aura été dans la boucle puisqu'il y aura des décisions, etc. Et donc, les banques, les assurances aujourd'hui sont très, très conscientes que l'humain doit rester dans la boucle pour garder le contrôle sur toutes les possibilités offertes par l'intelligence artificielle.